VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 4 août 2016, en direct de Washington. Idrissa Sidoulia et Anne Alberson. Tout d'abord, les titres.
En République démocratique du Congo, les ambassadeurs africains à Kinshasa réaffirment leur soutien au facilitateur Edem Kodjo, récusé par l'opposition.
En Guinée, un député du principal parti d'opposition placé en garde à vue pour outrage au chef de l'État, Alpha Condé.
À Londres, une femme tuée et plusieurs autres personnes blessées hier soir. Le suspect arrêté après cette attaque au couteau souffrirait de problèmes mentaux.
Ici aux États-Unis, vive controverse après les révélations du Wall Street Journal sur les 400 millions de dollars en liquide versés aux Iraniens en janvier.
Toujours aux États-Unis, le malaise grandit chez les Républicains vis-à-vis de Donald Trump, leur propre candidat à la présidentielle américaine.
Et ne manquez pas notre page des sports ainsi que la Minute Éco. Dans notre série sur les familles présidentielles africaines, aujourd'hui le Mali. Pour l'instant, le journal.
Les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa ont exprimé hier leur soutien total à Edem Kodjo. Le facilitateur désigné par l'Union africaine pour le dialogue politique censé ouvrir la voie à des élections apaisées est rejeté par l'opposant Etienne Tshisekedi. Eddie Isango.
D'après Clément Yandoma, représentant de Brazzaville à Kinshasa, les groupes des ambassadeurs africains apportent son soutien total à Edem Kodjo pour l'organisation d'un dialogue national inclusif en RDC. Samedi, M. Kodjo a reporté sine die les démarrages des travaux préparatoires à ses assises. Dimanche, lors d'un meeting populaire à Kinshasa, l'opposant Etienne Tshisekedi a réitéré la récusation de M. Kodjo, l'accusant d'être proche du président Joseph Kabila. Une accusation rejetée par M. Kodjo, qui la qualifie d'injuste. Fin novembre 2015, le président Kabila a convoqué un dialogue national pour mettre autour d'une table la majorité, l'opposition et la société civile afin de réfléchir à la tenue d'élections apaisées. L'opposition avait d'abord boudé ses pourparlers en parlant des pièges avant de donner son accord sous condition. Mardi, l'Union européenne a exhorté les autorités congolaises et l'opposition à créer des conditions favorables au démarrage rapide de ces dialogues.
En Guinée, un député du principal parti d'opposition a été placé en garde à vue à Conakry pour outrage au chef de l'État, Alpha Condé. L'affaire a trait à une déclaration faite lors d'une réunion politique. Le Point avec Jacques Aristide.
Il s'agit d'Ousmane Gawal Diallo, député de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, l'UFDG qui est la principale formation de l'opposition dirigée par l'ex-premier ministre Seydou d'Alain Diallo. Le député a été placé en garde à vue à la suite d'une plainte d'un procureur de Conakry au nom du chef de l'État guinéen d'après son avocat Maître Alseni Aminata Diallo. Selon le député Diallo, lors de son interrogatoire, les gendarmes lui ont reproché d'avoir attribué au président Condé la phrase « L'opposition envoie les enfants dans la rue pour qu'ils se fassent tuer » et d'avoir alors affirmé qu'une telle phrase ne pouvait être prononcée par un chef de l'État, mais par un criminel. De tels propos auraient été tenus au cours de un rassemblement de l'UFDG le 30 juillet dans la capitale guinéenne. Hier, le gouvernement a décliné tout commentaire, arguant de la poursuite de l'enquête. Le député Diallo avait en août 2015 été condamné par un tribunal de Conakry à 18 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires sur un homme d'affaires guinéen.
En Mauritanie, le procès de 13 militants de l'ONG anti-esclavagiste IRA s'est ouvert hier à Nouakchott sous haute surveillance. Des détails avec Nani Talani.
Le palais de justice était sous haute protection policière. Les chefs d'inculpation à l'encontre des 13 prévenus sont rébellion, usage de la violence, attaque contre les pouvoirs publics, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue. S'ils sont déclarés coupables, ils risquent jusqu'à 2 ans de prison. Les avocats ont nié le flagrant délit, estimant que les prévenus ont été arrêtés chez eux ou sur leur lieu de travail et non durant les émeutes. Ces militants de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste ont tous plaidé non coupables. Ils avaient été arrêtés entre fin juin et début juillet. Ils sont accusés pour leur implication présumée dans une violente manifestation suite à une tentative de déguerpissement d'un bidonville de Nouakchott.
En Libye, les forces pro-gouvernementales, fortes du soutien aérien américain, tentent de consolider leur position conquise à Sirte, fief du groupe État islamique. Mais elles font face, dans leur progression, aux tireurs embusqués et aux mines posées par les djihadistes. La chute de son bastion de Sirte, situé à 450 km à l'est de Tripoli, constituerait un coup dur pour l'organisation djihadiste. Pour faciliter sa prise, le gouvernement italien s'est dit mercredi prêt à ouvrir ses bases militaires et son espace aérien aux bombardiers américains qui ont mené lundi et mardi 7 frappes contre les positions du groupe État islamique à Sirte.
La Tunisie a un nouveau Premier ministre. Le président Béji Caïd Essebsi a choisi Youssef Chahed, 40 ans. Le nouveau Premier ministre a 30 jours pour former un gouvernement d'union nationale, Anastasie Tudiech.
Avant même l'annonce officielle de la désignation de Youssef Chahed, des Tunisiens ont dit apprécier son jeune âge, qui tranche avec le profil des dirigeants en poste depuis une révolution pourtant dite de la jeunesse. Le président Caïd Essebsi a 89 ans et Habib Essid, l'ancien chef de gouvernement, 67. Certains ont toutefois critiqué la promotion d'un membre du gouvernement sortant après le vote de défiance du Parlement pour congédier Habib Essid. La presse tunisienne s'est par ailleurs interrogée sur la marge de manœuvre du tout nouveau Premier ministre désigné. Le journal Le Quotidien soupçonne le président tunisien d'orchestrer une présidentialisation du régime. Et le quotidien Al Maghreb de renchérir, si Youssef Chahed veut réussir, il doit se considérer dès maintenant comme le capitaine du navire Tunisie et non pas comme un exécutant des instructions du président.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a donné son feu vert pour que l'appellation attiéké, spécialité culinaire du pays, soit protégée. L'objectif est de se prémunir de la concurrence étrangère, a annoncé hier son porte-parole. Jean-Roger sait de quoi il s'agit.
Le Conseil des ministres a demandé au ministre de l'Industrie de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la protection juridique internationale de l'appellation attiéké, ainsi que du mode de production de cette denrée, a déclaré à son issue le ministre de l'économie numérique, Bruno Conné. Il s'agit donc de créer une marque internationale de produits et de services, a précisé le porte-parole du gouvernement ivoirien. En raison de sa notoriété, la production de cette denrée tend à se développer de façon importante hors de la Côte d'Ivoire et tend à être commercialisée sous la même appellation par des pays qui utilisent une partie seulement du processus de mise en œuvre, a expliqué M. Conné. L'attiéké est un mets fait à base de semoule de manioc cuite, très prisé par les populations résidant en Côte d'Ivoire et celles à l'étranger où plusieurs tonnes sont exportées chaque mois, notamment au Burkina, au Mali, en France ou aux États-Unis. En 2016, 5 unités de production d'une capacité de 1,5 tonnes chacune ont été créées dans la région d'Abidjan, a précisé le district de la capitale économique ivoirienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, l'homme arrêté après l'attaque au couteau qui a fait un mort, une femme, et plusieurs blessés hier soir à Londres souffrirait de problèmes mentaux. Un homme de 39 ans a été arrêté et il est actuellement en garde à vue à l'hôpital. Les premières indications suggèrent que la santé mentale jouerait un rôle significatif dans cette affaire, a déclaré ce matin un responsable de la police. Il a cependant ajouté qu'aucune piste n'était exclue, dont la piste terroriste évoquée plus tôt.
Les États-Unis ont versé à l'Iran en janvier l'équivalent de 400 millions de dollars en liquide, en euros, francs suisses et autres monnaies étrangères, pour régler partiellement un litige vieux de plusieurs décennies. Il est consécutif à l'annulation d'un contrat d'armes peu avant la chute du Shah en 1979. Le même jour, Téhéran a relâché 4 otages américains, mais Washington dément que cet échange soit l'équivalent d'un paiement de rançon. Ce transfert de fonds coïncide aussi avec la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien entre Téhéran et le groupe P5+1, ainsi que la levée des sanctions internationales contre l'Iran. La nouvelle publiée par le Wall Street Journal a suscité de vives critiques dans le camp du candidat républicain Donald Trump et dans celui des opposants à l'accord sur le nucléaire iranien.
En Syrie, les forces du régime, appuyées par des raids russes, ont repris aux rebelles de nouvelles positions près de la ville d'Alep, la deuxième du pays. Elles ont ainsi réduit presque à néant les gains tout récemment engrangés par les insurgés lors d'une offensive majeure. Dans le même temps, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques s'est dite préoccupée par des informations selon lesquelles du chlore aurait été utilisé lors d'un bombardement près de cette ville du nord de la Syrie, dont la reprise totale par le pouvoir pourrait marquer un tournant dans la guerre.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, John Linden.
200 millions de dollars, c'est le montant de l'accord de financement qui a été signé entre la Côte d'Ivoire et la Banque indienne d'import-export. Le montant des échanges commerciaux entre l'Inde et la Côte d'Ivoire s'élevait à près de 839 millions d'euros en 2014. Au Maroc, le groupe hôtelier portugais Sana ouvre deux établissements à Casablanca. Les deux hôtels de 4 et 5 étoiles totalisent 355 chambres. Leur construction nécessitera un investissement de 56 millions de dollars et permettra la création de plus de 400 emplois directs. Et on termine par une note triste pour souligner que le président du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, n'est plus. André Fosso est décédé en France des suites de maladie. André Fosso laisse derrière lui TAF Investment, un holding pesant plus de 45 milliards de francs CFA. Il a été en 2005 le tout premier président du conseil d'administration de la filiale camerounaise d'Ecobank.
Les sports à présent avec Tatiana Mosso. On ouvre avec les Jeux olympiques et les rencontres de football féminin, Tatiana.
L'équipe féminine du Canada s'est illustrée mercredi avec le but et le carton rouge les plus rapides de l'histoire des tournois olympiques de football. C'était lors de la victoire contre l'Australie, 2-0 à Sao Paulo. Jeannine Becky a ouvert le score à la 20e seconde de jeu seulement. Elle efface ainsi des tablettes le Mexicain Oribe Peralta qui avait trouvé la faille dès la 29e seconde en finale du tournoi masculin contre le Brésil. Ils avaient alors gagné 2-1. C'était au JO de Londres en 2012. Mais les Canadiennes ont décroché un deuxième record dans la foulée. Moins glorieux celui-ci. Chelina Zadorski a reçu un carton rouge dès la 19e minute. L'expulsion la plus rapide de l'histoire olympique, selon un tweet du comité organisateur Rio 2016, sans autre précision. Les Jeux Carioca avaient commencé auparavant ce mercredi avec le match Suède-Afrique du Sud 1-0 dans le tournoi de foot féminin, avant même la cérémonie d'ouverture officielle de vendredi soir. Le tournoi masculin, lui, débute ce soir avec le Brésil de Neymar en grand favori.
Le Comité international olympique a ajouté hier 5 nouveaux sports au programme des Jeux olympiques de Tokyo 2020.
Exactement, l'escalade, le karaté, le skateboard, le surf et le baseball, ou le softball, seront les nouvelles disciplines olympiques, un moyen de toucher une audience plus jeune et plus large. Le baseball avait déjà figuré au programme des JO de 1992 à 2008. Les 85 membres du CIO ont voté à l'unanimité en faveur de l'ajout de ces 5 sports, qui porteront à 33 le nombre de sports au programme des JO de Tokyo, contre 28 à Rio à l'heure actuelle. Ces 5 sport n'entre au programme que pour 2020. La ville hôte des Jeux de 2024 qui sera connue en septembre 2017. Alors il y a le choix entre Budapest, Los Angeles, Paris et Rome qui sont déjà candidates. Elle aura à son tour la possibilité d'ajouter ses propres sports.
Et un mot sur le football africain.
Oui, l'entraîneur portugais Roré Costa a été reconduit au poste lucratif de sélectionneur du Gabon, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Elle aura lieu en janvier-février 2017 avec pour mission de disputer au moins la finale de cette compétition. C'est du moins l'objectif qui lui est fixé. En effet, la même FEGAFOOT, la Fédération Gabonaise de Football, avait mis fin le 30 juin dernier au contrat de l'ex-international portugais en raison de son bilan en dents de scie depuis son arrivée en juillet 2014.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Suite de notre série sur les familles présidentielles africaines, aujourd'hui le Mali. Les familles des présidents maliens ont été très souvent impliquées dans la gestion du pouvoir de façon indirecte ou directe. Depuis l'avènement de la démocratie au Mali en mars 1991, les Maliens ont élu 3 présidents de la République et aucun d'entre eux n'a pu empêcher l'implication de leurs femmes, enfants ou parents dans la gestion du pouvoir, nous dit de Bamako Kassim Traoré.
Lors de la présidentielle de juillet 2013, Ibrahim Boubacar Keïta, président et candidat du Rassemblement pour le Mali, avait comme slogan « Le Mali d'abord, l'honneur et la dignité des Maliens ».
C'était une parole d'Ibeka pour que les gens puissent voter pour lui. Et il nous a démontré qu'il s'en fout complètement de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il a placé presque toute sa famille dans le pouvoir.
Élu comme président de la République, son slogan « Le Mali d'abord » a été transformé en « Ma famille d'abord ». Cela à cause de plusieurs nominations et élections de certains de ses enfants. Django Koulibaly.
Moi, je pense quand même que depuis 3 ans, le bilan n'est pas à hauteur de sueur. Parce que il a fait la gestion du pays une affaire de famille. Et moi, je pense que ça a beaucoup impacté sur sa gestion. Sinon, Ibeka, même en tant que lui, on sait qu'il aime ce pays. Mais son problème, c'est son entourage. Et surtout, le fait qu'il a un peu impliqué sa famille dans la gestion du pays. Et vraiment, ça a faussé tout son calcul, si on peut dire comme ça.
Les membres de la famille du président de la République dans les affaires n'est pas une mauvaise chose. Selon Bougouri Diara, du parti IMRDA, membre de la majorité présidentielle.
Notre famille au pouvoir, comprenez que notre famille fait partie du Malien. Nous sommes autant Maliens que tant d'autres. Si nous avons les mêmes droits que les autres Maliens, pourquoi ne pas être là aux affaires avec d'autres Maliens? Et moi, je ne vois pas en quoi cela peut déranger ou cela peut être facteur de quoi que ce soit. S'ils n'ont pas les compétences requises, là, ça pose des soucis. Mais du moment où la famille a les mêmes compétences que tant d'autres Maliens, je pense qu'il y a lieu de voir ces questions parce qu'il ne faut pas que nous apprenions à être injustes.
La famille d'abord, c'est aussi au niveau du Parlement malien, où le fils du président de la République est député aux côtés de son beau-père, président de l'Assemblée nationale. Karim Keïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, son nom est sur toutes les lèvres à Bamako.
Aujourd'hui, moi, je pense que l'honorable Karim Keïta, il faut le saluer, parce que ça a été courageux de sa part d'accepter d'aller au charbon. Aujourd'hui, il a été élu par une commune et non par son père, parce que c'est des Maliens encore qui ont voté pour lui, pour qu'il soit là où il est. C'est pas le fils du président qui nous intéresse, mais ce que Karim peut donner en tant que fils du président au peuple, c'est de cela qu'il s'agit.
La gestion du pouvoir par Ibrahim Boubacar Keïta a déçu pas mal de Maliens qui pensaient qu'il était l'homme de la situation. Gabriel Tchenou.
On ne peut pas apporter de changement avec la gestion du pouvoir avec une telle famille de pouvoir, parce qu'on ne peut pas prendre de décision. Et quand quelqu'un de la famille faille à sa mission, il est difficile de prendre des sanctions en la matière et que ce soit vraiment rigoureuse.
Depuis l'arrivée de Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir, le Mali a connu plusieurs affaires de malversation et de détournement. Aucune enquête judiciaire n'a été ouverte et la raison est connue de tous. La présence de la famille au pouvoir a entraîné des dysfonctionnements, de l'immobilisme et de la corruption à l'intérieur des institutions maliennes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, un phénomène touchant particulièrement les filles se développe dans les lycées, collèges et universités du pays. Les relations qu'entretiennent certaines jeunes filles avec des hommes nettement plus âgés. De Cotonou, notre correspondante sur place, Ginette Fleur Adandé.
Le phénomène est à la mode et certaines jeunes filles s'y plaisent bien, parfois même avec la complicité de leurs parents, qui se voient ainsi déchargés de leurs obligations parentales, comme agents de poche, frais de scolarité et autres. Sylvie, une jeune fille de 18 ans, le baccalauréat en poche, se fait entretenir depuis 2 ans par un homme de 50 ans qui ne lui demande en échange que sa disponibilité et le sexe.
Je ne sais pas au fait vraiment de la prostitution en tant que telle. J'ai un monsieur avec qui moi je sois par exemple. S'il est le seulement, je ne vois pas en quoi cela est de la prostitution. Bien que toi-même tu le vois, tu sais qu'il est marié. Tu sais qu'entre toi et lui, ça n'ira pas loin. Toi-même tu le sais, juste que toi ton problème c'est qui te finance.
C'est un choix de vie auquel adhèrent beaucoup de jeunes filles béninoises qui le trouvent peu contraignante mais surtout rentable en termes de gains.
Moi je pense que d'une part c'est bien de sortir avec les hommes plus âgés que nous parce qu'ils arrivent à subvenir à nos besoins par rapport aux jeunes.
Moi je trouve que c'est bien parce que vous savez les hommes d'aujourd'hui, surtout les hommes mariés, ont déjà plus d'expérience que les jeunes. Donc ils savent respecter les jeunes filles plus que les jeunes hommes. Moi je m'en fous des préjugés, hein, je l'ai toujours dit.
Certaines relativisent tout de même si elles pensent que les jeunes filles qui optent pour ce genre de vie n'ont peut-être pas eu le choix.
Ces filles, vraiment, on ne peut pas les condamner parce qu'elles ont leur raison de faire ça. Je ne dis pas que forcément c'est bien ce qu'elles font.
D'un côté c'est bien, de l'autre côté c'est pas bien parce que l'autre là, elle est plus âgée que toi et tu peux l'appeler papa.
Pour Thierry qui a vu sa petite amie le quitter pour un homme de 20 ans son aîné, le phénomène est à décourager.
Je pense que c'est très dangereux ce que ces vieux font. Ils sont des hommes mariés, ils ont des enfants à charge à la maison qui laissent et ils sortent. Ils dilapident tout ce qu'ils ont comme gain au dehors. Il faut que aussi les filles, elles arrêtent cela. Quand on se livre à ces jeux, on devient grand, mais très très jeune.
Les relations sexuelles intergénérations prennent des proportions tellement inquiétantes que les épouses délaissées en viennent parfois à se venger en entretenant des relations intimes avec des jeunes moins âgés à qui elles assurent une certaine aisance financière. Pour le sociologue Jacques Aguia, il faut que l'État se penche véritablement sur cette situation, signe fort d'une perte des valeurs morales.
Il faut que le système législatif, l'Assemblée nationale légifère et qu'on ait des mesures contraignantes, des initiatives à dimension punitive parce qu'il s'agit de l'éducation des jeunes, il s'agit de la jeunesse.
L'amour n'a pas d'âge, dit-on, mais est-ce une raison pour s'adonner à ce genre de relation qui dégrade, quoi qu'on dise, le tissu familial? Le nombre de foyers que ce genre de relation fait exploser suffit pour y répondre. De Cotonou, Ginette Pleu-Adandé pour VOA Afrique.
Fin du sommet Yali 2016 à Washington, cette initiative envers les jeunes leaders africains s'est achevée hier avec une réunion publique à laquelle a participé le président Barack Obama à l'origine de cette initiative qui met en avant les jeunes talents du continent. Reportage de Nicolas Pinault.
Oui, devant les 1000 jeunes leaders africains réunis pour ce sommet dans la capitale américaine, Barack Obama a été ovationné plus d'une fois au cours de ses échanges avec la jeunesse du continent. Le chef de l'exécutif américain a délivré un message d'espoir envers l'Afrique.
Je vois un continent en mouvement. Vous avez l'une des régions du monde qui connaît la plus forte croissance. Vous êtes connecté par la technologie. L'Afrique envoie de plus en plus d'enfants à l'école. De plus en plus de vies sont sauvées du sida ou de la mortalité infantile. Il y a encore du travail pour résoudre ces problèmes, mais aujourd'hui, l'Afrique est un continent de prospérité et d'opportunité.
Awakaba est une auto-entrepreneuse du Sénégal. Elle a été citée en exemple par Barack Obama pour son action auprès des femmes en milieu rural dans son pays, en leur donnant accès aux différents marchés via une plateforme digitale.
Très 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 heureuse de savoir que le travail que j'ai eu à faire à Dakar est venu jusqu'ici en terre américaine et que le président américains reconnaissent nos talents, reconnaissent qu'aujourd'hui des jeunes africains innovent en utilisant la technologie, innovent dans l'agriculture, innovent dans la santé, l'éducation. Et cette reconnaissance-là que nous voulons aussi dans nos pays africains, que nos gouvernants reconnaissent qu'aujourd'hui on peut développer l'Afrique. Et c'est ça vraiment qui me fait plaisir.
Christian Mapendano, lui, est journaliste à Goma, en République démocratique du Congo. Il a eu la chance de pouvoir poser une question à Barack Obama, mais regrette de ne pas avoir pu prendre de photos avec son idole. Il retient néanmoins les bons souvenirs de son passage aux États-Unis.
Je me suis fait de nouveaux amis, je me suis fait de nouveaux contacts et je pense qu'à l'avenir, nous allons nous y atteler, nous allons nous mettre au travail pour qu'ensemble, on puisse toujours continuer à capitaliser cette rencontre. Si vous voulez aller très vite, il faut partir seul, mais si vous voulez aller très loin, il faut aller ensemble. Et ensemble, on va faire face à tous ces problèmes que l'Afrique connaît aujourd'hui parce que nous avons déjà toutes ces connaissances-là.
Barack Obama a insisté auprès des jeunes Africains pour qu'ils se tournent vers l'avenir pour assurer la prospérité du continent. Des paroles très appréciées par Aïcha Maki, une réalisatrice nigérienne.
Il y avait une phrase qui avait retenu mon attention, c'est quand il disait en fait de rompre avec le passé, de ne pas faire du passé un prétexte pour ne pas être responsable et pour ne pas avoir les capacités de bâtir le continent africain. C'est un discours vraiment à mettre en œuvre pour rompre avec les histoires du passé colonial et aller de l'avant pour construire notre nation.
Depuis le lancement du programme Yali en 2010, 250 000 jeunes Africains ont pu participer de près ou de loin à ce projet. Et Barack Obama espère que cela va continuer une fois qu'il aura quitté la Maison Blanche. Nicolas Pineau, Washington, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Chez les Républicains, le malaise grandit vis-à-vis de leur porte-flambeau officiel Donald Trump. Le tabou du vote en faveur de la démocrate Hillary Clinton à l'élection présidentielle américaine est brisé. Idriss Fall.
La trêve a été fragile entre Donald Trump et les ténors de son parti. Elle avait plus ou moins tenu malgré les dissensions à la convention républicaine il y a 2 semaines. Maintenant, des poids lourds dont l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, envisage de parler directement à Donald Trump pour qu'il rentre dans le rang. La plupart des élus républicains du Congrès et les dirigeants du parti continuent de le soutenir sur le papier, mais le candidat multiplie les coups d'éclat. Le risque pour le parti républicain est de se présenter en ordre dispersé alors qu'Hillary Clinton dispose de l'appui inconditionnel de l'appareil démocrate et du président sortant Barack Obama. L'inquiétude est montée d'un cran après l'escalade verbale de Donald Trump pour répondre au père d'un soldat musulman américain tué en Irak en 2004, le patron du parti républicain, Reince Priebus, est furieux de cette nouvelle polémique après le tollé qui avait suivi l'appel dit sarcastique de Donald Trump à la Russie pour retrouver certains messages privés effacés d'Hillary Clinton. Pour son allié Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants, Trump se comporte comme s'il était encore aux primaires quand il avait 17 candidats. Il a ajouté qu'il doit faire la transition et devenir un potentiel président des États-Unis, ce qui est un niveau beaucoup plus difficile.
Il y a déjà des défections. Certains républicains sont quittés le navire. On dit qu'ils vont voter pour Hillary Clinton.
En effet, Richard Hanna, élu républicain à la Chambre des représentants, est devenu le premier membre de son parti à annoncer son intention de voter pour la démocrate Hillary Clinton. Selon M. Hanna, Donald Trump n'est pas l'homme capable de servir son parti et ne peut pas diriger ce pays. Et Meg Whitman, patronne de Hewlett-Packard, a fait savoir qu'elle voterait pour Hillary Clinton en novembre. Meg Whitman est l'une des femmes républicaines les plus connue et influente de la Silicon Valley. Elle a été candidate du parti au poste de gouverneur de la Californie en 2010. Elle a été membre de l'équipe de campagne de Chris Christie aux primaires, avant de rompre avec lui avec fracas lorsqu'il a rejoint le camp Trump. Elle a dit au New York Times que Donald Trump est un démagogue malhonnête.
Idriss, on peut ajouter à cette liste Brent Scowcroft, ancien conseiller à la sécurité nationale du premier président Bush, Richard Armitage, ancien secrétaire d'État adjoint de Bush fils, Hank Paulson, ancien secrétaire au Trésor, et plusieurs anciens élus qui ont donc annoncé qu'ils voteraient pour Hillary Clinton. Parmi eux, l'indépendant Michael Bloomberg, ancien maire de la ville de New York. Merci Idriss Fall.
Dans Washington Forum cette semaine, le retour en RDC d'Étienne Tshisekedi. L'opposant historique a tenu son premier discours devant des dizaines de milliers de ses partisans. Parallèlement, la bataille sur le calendrier électoral avec le gouvernement se poursuit. Avec Étienne Tshisekedi à Kinshasa, l'opposition va-t-elle être unie? À quel dialogue s'attendre fin novembre avec le gouvernement de Joseph Kabila? Quid des procédures judiciaires contre Moïse Katumbi et Martin Fayoulou? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et je vous retrouve dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le monde. monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.